Bonsoir. Les députés disent oui cet après-midi au vote sur le régime d'exception de l'état d'urgence et la déchéance de nationalité. Vote décisif en vue de la révision constitutionnelle. Et François Hollande, ce matin encore, en Conseil des ministres, avait bien pesé pour faire adopter donc ce texte. Il jouait gros, le président de la République, face à une majorité, face à une opposition pas forcément unie. Et le président qui va devoir faire désormais preuve de doigté dans le remaniement ministériel qui se dit imminent. On annonce ça demain. En tout cas, il y a déjà une certitude. C'est Laurent Fabius qui quitte le Quai d'Orsay pour le Conseil constitutionnel. Alors, est-ce que cette dernière année avant le scrutin de 2017 sera difficile pour François Hollande ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, tenez, dans 20 minutes, gros plan sur Laurent Fabius, qui était à la tête de la diplomatie française, mais vous savez qu'il s'était adjoint, depuis qu'il était arrivé en 2012, la casquette du tourisme, justement. Et les professionnels du tourisme, eh bien, peut-être le regrette-t-il ce soir. Il avait fait beaucoup, beaucoup pour le tourisme, Laurent Fabius. Tout à l'heure, à 20h également, puisque les décodeurs de l'écho, tous les soirs, c'est extrêmement varié, mais toujours très actu. On va revenir sur un autre scrutin présidentiel, celui des États-Unis. Cette fois, eh bien, à la fin de l'année 2016, justement, avec hier les primaires du New Hampshire. Victoire de Bernie Sanders côté démocrate, victoire de Donald Trump côté républicain. Est-ce que les Américains ont voulu émettre un vote de colère, justement? Question qu'on posera tout à l'heure à 20h. Allez, justement, la politique française, tout de suite avec François-Mickey Marty. Il est avec nous, président fondateur de l'Institut de sondage et d'opinion. Via Voice, avec nous également Mathieu Jolivet, qui suit les dossiers politiques ici à la rédaction de BFM Business. Alors, avant le vote de cet après-midi, qui est intervenu peu avant 17h, quel long parcours, quel parcours du combattant, diront certains, depuis le discours choc du président de la République, 3 jours après les tueries du mois de novembre à Paris. C'est ce qu'on voit tout de suite avec Jean-Baptiste Huet.
C'est fait, l'Assemblée nationale a donc dit oui cet après-midi à la révision constitutionnelle. 317 voix pour, 199 contre, un peu plus des 3/5 nécessaires. C'est une bonne nouvelle, selon Manuel Valls, le Premier ministre.
Les Français n'auraient pas pardonné et ne pardonneront pas à ceux qui ne se hissent pas à la hauteur des responsabilités.
L'article phare de cette révision constitutionnelle, c'était au départ la déchéance de nationalité pour les actes de terrorisme. C'est devenu aujourd'hui une déchéance de nationalité pour les atteintes graves à la vie de la nation. Ce sujet affole la classe politique depuis des semaines. En fait, depuis que François Hollande s'est engagé devant le Congrès le 16 novembre dernier.
Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française, un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français.
Depuis, c'est un tourbillon de déclarations, de prises de position, un coup à droite, un coup à gauche. Si on a pu croire que le texte avait été enterré, c'était pour mieux le voir ressortir un peu plus loin. La gauche s'est déchirée sur cette question. Christiane Taubira a claqué la porte du gouvernement. De leur côté, les ténors socialistes comme Jean-Marc Ayrault ou Martine Aubry sont tombés à bras raccourcis sur le gouvernement. D'autres, comme Emmanuel Macron, a priori plutôt favorable au texte, ont quand même émis quelques réserves. On ne traite pas le mal en l'expulsant de la communauté nationale, a-t-il dit. Une sortie peu apprécié, la presse rapporte qu'un proche de Manuel Valls à l'Assemblée aurait promis en parlant d'Emmanuel Macron de couper les couilles de ce petit con. À droite, l'ambiance n'est pas meilleure chez les Républicains. Si Nicolas Sarkozy soutient le projet, ce n'est toujours pas le cas de François Fillon. Il en remettait encore une couche cet après-midi à l'Assemblée.
Ce texte est un texte qui abîme la Constitution de la République, mais je me réjouis aussi qu'un grand nombre d'hommes et de femmes à droite et au centre aient choisi de ne pas le voter.
Même sentiment pour Alain Juppé qui dénonce de son côté une réforme inutile qui divise tous les groupes du Parlement. Quant au Front National, il est favorable au texte. La révision constitutionnelle doit maintenant être votée en deuxième lecture au Sénat, mission difficile car le Sénat de droite souhaiterait voir revenir la mention de terrorisme. Le texte devra ensuite revenir à l'Assemblée pour terminer peut-être devant le Congrès réuni à Versailles. Mais là encore, à chaque étape du vote, il faudra obtenir les 3 cinquièmes, ce qui n'est pas gagné d'avance.
Voilà, précision donc, explication signée Jean-Baptiste Huet. Alors c'est vrai, Manuel Valls, on l'a entendu tout à l'heure, Mathieu Jolivet, convaincu que la révision constitutionnelle sera adoptée par une majorité au Congrès. Qui doit remercier quand même ce soir? Parce que la victoire a été assez nette.
On doit remercier en premier les 111 députés Les Républicains qui ont voté pour ce texte. On entend un peu partout qu'il y a eu une très large majorité cet après-midi à l'Assemblée, mais il faut faire attention dans cette lecture, parce que là, notre repère, c'est les 3 cinquièmes dont il a besoin au Congrès. Et en fait, c'est cette barre que devra franchir François Hollande s'il arrive à réunir le Congrès. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette barre, elle est tout juste franchie. Et donc, elle est franchie grâce à ces 111 députés.
Elle est franchie à l'Assemblée nationale.
Juste à l'Assemblée nationale.
Et les 300e, ça sera voilà. Assemblée et plus voilà. Sénat ensemble.
Voilà. Et surtout, en fait, et c'est ça qui est assez spectaculaire, c'est que quand on regarde le détail de sa majorité, il y en a 83 qui ont voté contre. 83 députés socialistes, c'est énorme. Donc oui, il peut dire merci aux députés Les Républicains.
165 pour ce côté socialiste, 83 contre, 36 abstentions. Et on n'oublie pas également de signaler que les centristes de l'UDI ont voté pour une très grande majorité.
Juste pour se rendre compte en général, parce qu'on a l'habitude maintenant, depuis le début du quinquennat, de regarder le score des frondeurs à chaque vote, ce qui nous permet de prendre un peu le pouls de l'état d'esprit dans la majorité. Et en général, quand ils sont en forme et qu'on dit « oulala, dis donc, la gauche se fracture », il y en a entre 30 et 40 qui votent contre un texte de loi. Donc ça, c'est à partir de là qu'on dit « oulala, la gauche est divisée ». Là, on parle de 83 députés.
83
donc,
contre.
Et je pense que ça a surpris Manuel Valls tout à l'heure.
C'est dire, c'est dire si la tâche s'annonce difficile. François-Mickey Marty, on l'a entendu dans le sujet de Jean-Baptiste Huet, quel parcours du combattant, ces semaines de débats enflammés, ces textes qui changent quasiment entre le matin et le soir, justement, des nouvelles écritures du texte, pas simple quand même. Il s'était mis dans un piège, François Hollande, ou pas? On l'a entendu là tout de suite.
Justement, oui, qu'il n'avait probablement pas sous-estimé. Ce qui est frappant sur les deux sujets d'actualité, cette déchéance de nationalité et puis le remaniement, au fond, ce sont des choses qui sont entre les mains à l'origine du président de la République. Et puis, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Alors, c'est plus compliqué, bien sûr, parce que à cela s'ajoutent bien évidemment les arrière-pensées des uns et des autres. Il y a une primaire, peut-être deux, la présidentielle. Ensuite, donc tout ça attise bien évidemment les différences. Mais quand même, il me semble que autour de cette question de la nationalité, on a eu, malgré tout et malgré les prises de distance parfois critiques à l'égard des débats qu'on a entendus, on a eu des débats assez forts, des arguments qui se sont développés au cours des semaines. C'est la raison aussi pour laquelle les opinions ont changé. Au fond, lorsqu'on réécoute aujourd'hui le discours de François Hollande du 16 novembre, il a sa cohérence, appelant à un élargissement, il s'agissait à l'époque d'un élargissement de la déchéance de nationalité, puisqu'elle était prévue.
S'y prononcer dans un contexte,
particulier.
Très, très voilà. Fort,
donc,
que tout le monde se levait,
applaudi
par tout le monde.
Voilà. Alors, et quand on compris par les 83 socialistes.
Peut-être que lorsque le soufflet de l'émotion est retombé, peut-être que c'est à ce moment-là que le débat a commencé à partir.
Oui, alors, si on veut voir les choses de manière positive, on peut se dire aussi, c'est le propre d'une démocratie que de faire vivre ces débats. Les arguments ont été très puissants. Le premier argument qui est arrivé contre la déchéance de nationalité est celui de l'inefficacité. Au fond, ça ne sert à rien pour lutter contre le terrorisme.
Contre un gars qui veut se faire sauter ou qui veut égorger des gens, oui.
Ça ne sert à rien.
S'il n'aura plus le passeport.
Ensuite est arrivé le débat quasiment interminable du clivage entre les binationaux et puis les Français qui ne détiennent que, si l'on peut dire, la nationalité française. Et puis s'est développé ces dernières semaines, sous la plume de Christiane Taubira, et puis de manière assez étonnante, relayée par Emmanuel Macron, l'idée que la France n'a pas à renvoyer hors de France les mots qu'elle connaît sur son territoire. C'est un argument assez puissant. Et il y a une vraie surprise de voir, au fond, aujourd'hui, Emmanuel Macron entonner des arguments qui sont très proches de ceux de Christiane Taubira. Donc je crois que
on va rappeler ce que disait Macron, quand il prend ses distances quelque part avec son gouvernement, son président, son premier ministre, avec l'extension de la déchéance de la nationalité. Qu'est-ce qu'il disait hier soir? Qu'on ne traite pas le mal en l'expulsant de la communauté nationale.
Oui, et Christiane Taubira, dans son livre, dit qu'un pays doit être capable de se débrouiller. Elle utilise d'ailleurs un mot très fort. Elle dit « On ne peut pas créer sur la planète, je cite, des terres de déchetterie ». Au fond, pour des citoyens ou des personnes qui n'auraient pas des comportements vertueux. Donc, il y a des arguments qui sont très intéressants. Et au fond, on a peut-être jeté un peu rapidement le bébé avec l'eau du bain en disant « Tout cela est secondaire ». Alors, c'est vrai que c'est secondaire par rapport à la résolution immédiate de la question du terrorisme. C'est incontestable. Mais on a des débats de fond sur la question de la nationalité et qui sont beaucoup plus riches que ce que l'on aurait pu imaginer.
Ce que vous dites sur Emmanuel Macron, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas nouveau. En fait, il continue à développer une thèse qu'il avait commencé à développer devant le groupe des radicaux dits les GRAC à leur université d'été. Il s'y était rendu et là, il était parti sur un terrain qui n'était absolument pas le sien. Et il avait voulu parler des racines du mal en France. Il avait voulu parler de ces fameux ghettos dont parlait Manuel Valls et en expliquant qu'aujourd'hui, en fait, quelque part, ces racines du mal, c'est tous ces endroits où, de par la société française n'a pas réussi, par manque de volonté politique, de créer de la mobilité, laisser pousser des espèces d'individus ou en tout cas des trajectoires complètement dingues que la société n'a pas su maîtriser. Il avait développé toute une théorie là-dessus devant les GRAC et à l'époque, Manuel Valls l'avait vraiment très mal pris, lui avait fait savoir.
Comment François Hollande, comment Manuel Valls, mais François Hollande, il le disait encore ce matin en Conseil des ministres, il pesait justement pour que cette loi soit adoptée, ce texte à l'Assemblée nationale. Les téléphones ont dû sonner un petit peu partout. Comment est-ce que le président s'est impliqué lui-même? Je disais, c'est un enjeu considérable pour lui.
Oui, c'est un enjeu considérable.
Il n'était pas question que cet après-midi, le texte ne passe pas.
Oui, tout à fait.
Il aurait pu ne pas passer.
Oui, non, mais c'est un enjeu considérable parce que justement, il y a mis de sa personne 3 jours après les attentats. Il a fait le fameux serment justement là-dessus. Donc un engagement face aux Français, un engagement républicain. Et aujourd'hui, si sa propre majorité lui fait défaut sur une telle promesse, c'est un échec politique majeur. Et j'en parlais avec un des ténors socialistes à l'Assemblée hier après-midi, qui lui a eu extrêmement peur sur un article dont on n'a pas beaucoup parlé, qui était porté par le député socialiste Olivier Faure. Mmh. En fait, derrière lui, c'était Jean-Marc Ayrault qui téléguidait tout ça, et qui prévoyait d'enlever le mot de nationalité. On ne parlait plus que de déchéance et pas de nationalité. Et en fait, on s'attendait, et vraiment, ils ont touché du bois hier après-midi, en disant si cet article passe avec la gauche, on rentre dans l'inconnu, dans une crise politique majeure. Donc on en est là, et cet après-midi, ils ont voulu prendre le dernier texte, donc qui était le dernier texte après que tous ces articles aient été adoptés. Et c'est vrai que beaucoup de députés, y compris de la majorité, se sont plaints dans les couloirs de l'Assemblée de pression très forte, trop forte, du gouvernement. Donc de François Hollande.
C'est pas fini encore, hein, parce qu'évidemment il y a encore la phase du Sénat où le Sénat doit adopter exactement, parce qu'on est dans le cadre d'une réforme constitutionnelle. Et là, Assemblée et Sénat sont à égalité complète, hein, à la différence d'une loi, j'allais dire ordinaire, hein, François-Mickey Marty. Même texte, même loi, et ensuite donc faudra que ça soit adopté. Là encore, au 3/5, et ensuite donc. Il y aura le congrès, c'est ça, François-Mickey Marty, pour préciser.
Le congrès, probablement fin mars. Et ces chiffres,
Allez-y, François.
Ces chiffres, quand même, qui sont très intéressants. Sur le vote de l'article 2, qui était l'article essentiel, on a 92 députés socialistes qui ont voté contre. Alors, c'est un record. C'est-à-dire que, d'une part, par rapport à, effectivement, vous parliez tout à l'heure des frondeurs qui étaient 40, 50 en fonction des épisodes, on est nettement là. Et puis surtout, il y a tous les députés socialistes qui n'ont pas participé et qui n'étaient pas là. Donc, 92 contre 119 pour sur un groupe socialiste qui compte plus de 280 députés, ça veut dire que beaucoup n'étaient pas là. On voit à quel point on a une, au fond, défection d'une partie du groupe parlementaire socialiste, et pourtant, l'opinion, elle suit. C'est-à-dire que c'est là aussi l'un des paradoxes fascinants de cet épisode. C'est-à-dire que les Français, majoritairement, y compris les sympathisants socialistes, sont très favorables à cette déchéance de nationalité.
Oui, un paradoxe aussi à droite, quelque part aussi, hein, la droite qu'on pouvait attendre justement comme suivant donc eh bien ce texte de déchéance de la nationalité, enfin des mesures peut-être dures, hein, conformes donc à la lutte contre le terrorisme. Cet après-midi, il y a eu 111 pour dans le camp républicain, les Républicains, 74 contre, 8 abstentions. Et dans les contre, il y a François Fillon, on l'a entendu tout à l'heure dans le sujet de Jean-Baptiste Huet, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet, Alain Juppé, il est plus député, hein, bien sûr, mais enfin, il avait soutenu l'extension de la déchéance avant de se montrer hostile. Il tweetait cet après-midi que la révision de la Constitution est un exemple caricatural de la réforme inutile qui divise. À éviter, disait Alain Juppé, qui est à deux doigts de voir du bordel au sein du gouvernement. Il n'utilise pas ce mot, mais il utilise un autre mot, Alain Juppé.
Enfin, c'est un foutoir pas possible, ce gouvernement. Vous avez vu un gouvernement dans lequel les ministres passent leur temps à contredire le Premier ministre? Enfin, ça n'a pas de sens. On attend maintenant la composition du gouvernement. Je lisais dans vos colonnes que M. Hollande avait essuyé beaucoup de refus. Ça ne se brosse pas au portillon. C'est un gouvernement qui va vivre un peu en, en soins palliatifs jusqu'en 2017.
Voilà, le gouvernement va vivre en soins palliatifs, disait l'ancien Premier ministre Alain Juppé, qui concourra donc à la primaire des Républicains. Mathieu Jolivet, oui, maintenant, prochaine étape, c'est le Sénat. Et le Sénat, c'est une chambre aux mains de la droite, l'opposition. Et Gérard Larcher et Bruno Retailleau, qui est le chef de file donc des sénateurs, les Républicains, eux, ce qu'ils veulent, c'est revenir aux propos de François Hollande qu'on a entendu tout à l'heure, à savoir la déchéance de nationalité pour les binationaux et pour des faits terroristes. Il va falloir complètement réécrire le texte.
C'est ça, ils veulent réécrire le texte. Là, la difficulté, c'est qu'on a d'une part, et vous venez de le rappeler, débat sur la révision constitutionnelle qui s'est invité dans la campagne des primaires à droite. Il faut voir quelles répercussions ça aura et quelle image ça peut renvoyer vis-à-vis de l'opinion. Ça, c'est assez dangereux. Et en même temps, le Sénat,
cette fois... Ce qu'il faut rappeler, c'est que Nicolas Sarkozy, lui... hier, il avait encore plaidé en faveur du vote.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau, à droite, vous avez le camp du oui qui est derrière Nicolas Sarkozy, voilà. Le camp du non derrière, en gros, Fillon, François Fillon
Juppé,
et Alain Juppé.
Francisco Morizet, par voilà. exemple.
Et donc, il va y avoir, donc, s'ils se mettent à politiser avec, sur fond de campagne de primaire, cette question de révision constitutionnelle, le Sénat a peut-être pas envie de renvoyer cette image et peut-être aussi d'endosser la responsabilité, d'un échec de révision constitutionnelle. Donc, ce qui peut se passer, c'est ce que m'expliquait, encore à prendre avec des pincettes, mais un des ténors socialistes qui était lui assez confiant encore hier soir, qui me disait qu'a priori il y avait encore un peu de marge de manœuvre pour retoucher au texte, pour lui donner peut-être un aspect sécuritaire un tout petit peu plus fort, envisager une navette supplémentaire, donc un aller-retour supplémentaire entre Sénat et Assemblée, et après c'est plié. Mais en même temps...
Enfin, c'est plié. S'il y a un volet sécuritaire qui intervient au Sénat,
le problème, c'est
les
que,
députés de gauche n'en voudront pas
le
à
problème,
l'Assemblée.
Le problème, c'est que quand on voit la défiance plus forte que prévu des socialistes cet après-midi, comment est-ce qu'on fera si jamais ils déplacent le curseur au niveau sécuritaire? Et si on se met à envisager le scénario d'une navette interminable, parce que tant qu'il n'y a pas un texte commun, il peut y avoir autant d'allers-retours... possible entre l'Assemblée et le Sénat, ce sera juste la mort de cette révision constitutionnelle.
Ouais, et donc là, comme c'est la question qu'on se pose ce soir, François-Mickey Marty, année difficile, la dernière année avant la présidentielle pour François Hollande, sur ce texte notamment, et puis dans un instant on va parler du remaniement aussi.
Alors, année difficile bien évidemment, on voit les difficultés sur ce texte, elles seront probablement croissantes, Bruno Retailleau aussi a indiqué qu'il tenait à l'introduction de la notion de binationalité sur ce texte-là, et puis... on a aujourd'hui un François Hollande qui débute cette année avec un discrédit majeur. On a aujourd'hui, selon notre sondage réalisé, publié ce matin, on a aujourd'hui les trois quarts des Français qui ne souhaitent pas la réélection de François Hollande, et y compris à gauche. On a 55% des sympathisants de gauche qui sont opposés à la réélection de François Hollande. Donc, au fond, son équation est extrêmement compliquée. Plus le temps passe, plus il est en mesure et en nécessité de réagir rapidement, et moins il dispose de ces moyens-là. Alors, il aurait pu, effectivement, imaginer que la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2016 lui offrent des armes. La déchéance de nationalité pouvait en être une, ça ne fonctionne pas très bien, et le remaniement peut en être une autre.
De toute façon, il va faire une opération clarification qu'il va tenter dès demain soir.
Demain soir, à la télévision, sur TF1 et France 2, donc dans les deux 20h demain soir. Ah oui, alors le remaniement sera peut-être intervenu, donc d'ici là, on parle d'un remaniement imminent. Laurent Fabius, on sait, c'est la seule chose dont on soit sûr, il quitte le Quai d'Orsay pour devenir président du Conseil constitutionnel. Qui va le remplacer? C'est un gros point d'interrogation. Tiens, en fonction du résultat du vote de cet après-midi, Mathieu Jolivet, notamment avec les députés socialistes qui ont voté un petit peu plus nombreux contre ce texte de révision constitutionnelle, est-ce que ça peut avoir une incidence ou pas sur la composition, le remaniement, le quatrième remaniement depuis le début du quinquennat?
Peut-être. Après, moi, je m'avance pas dans les pronostics, mais c'est sûr que si jamais François Hollande prend en compte le résultat qu'on a vu s'afficher cet après-midi, donc avec beaucoup plus de socialistes qui se dressent contre la déchéance,
83 députés.
Il faudrait à ce moment-là qu'il envoie un message pour essayer de calmer sa famille politique.
Comment?
Et ce serait à ce moment-là l'option du rassemblement de la la gauche, dans un remaniement. Ouais. Ça veut dire qu'on élargit, qu'on ouvre aux écologistes, qu'on ouvre à des personnalités
de la... Quels écologistes? On sait qu'il y en a quelques-uns qui sont disponibles, qui avaient quitté le groupe Europe Écologie Les Verts, enfin, qui avaient complètement quitté.
On sait qu'on pense Emmanuel Cosse. Et alors, il y a Emmanuel Cosse serait un signe, serait peut-être un signe pour le coup.
Elle est toujours à la tête d'Europe Écologie.
Tout à fait. Donc ça, ce serait le signal politique le plus fort vers l'aile gauche, vers l'aile gauche du parti.
On sait que Barbara Pompili
aussi, qui eux sont plus dans la case des réformateurs, qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément un accès ou un pont direct avec les frondeurs. Voilà. Mais après, ils pourraient aussi faire rentrer des personnalités qui, eux, pour le coup, font le pont avec tous ces frondeurs. On pense en premier à Jean-Marc Germain. Jean-Marc Germain, qui lui est un
député des Hauts-de-Seine,
est un grand connaisseur notamment des questions du marché du travail. Si jamais on ne sait pas quel jeu de chaise musicale il peut y avoir, voilà, ça peut être le genre de nom ou d'option. En tout cas, ce serait l'option du rassemblement de la gauche.
Quel équilibre trouver François-Michel Marty pour François Hollande, pour la constitution de son gouvernement? Déjà, après le départ de Taubira et l'arrivée de Jean-Jacques Urvoas, donc il y a deux semaines maintenant, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Bon, j'imagine, là, ce soir, là, calcul.
Depuis son élection, tous les remaniements successifs ont recentré le gouvernement. Voilà. Les uns après les autres, on a eu un recentrage. Donc aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit il continue sur cette voie-là, le pari étant que, éventuellement, à l'approche de la présidentielle, la gauche de la gauche puisse in fine se rallier à François Hollande contre la droite et contre l'extrême droite.
Parce que l'impératif, c'est quoi dans la tête de Hollande quand même? C'est d'éviter l'élimination dès le premier tour en 2017.
Je crois qu'il y a deux impératifs.
Il faut éviter qu'il ait une candidature qui fasse même 1, 1,5, 2% et qui l'empêche finalement de concourir face à l'extrême droite ou au candidat des Républicains.
C'est l'événement majeur de cette présidentielle. Ouais. C'est-à-dire que pour la première fois, non seulement, je pense, dans l'esprit des dirigeants politiques, mais aussi dans l'esprit des Français, on a aujourd'hui les trois quarts des sympathisants de gauche qui estiment qu'il est indispensable d'avoir une candidature unique de la gauche pour que la gauche puisse être présente au second tour. Une candidature unique, fédérant, socialiste, écologiste, voire front de gauche. C'est dire l'ampleur de la tâche. Néanmoins, il y a l'autre élément qui, je pense, qui est très particulier à la période actuelle, qui sont les expériences de François Hollande depuis qu'il est président de la République. La plupart des ministres en fonction appartenant à la gauche de la gauche ou de sensibilité plus à gauche que la majorité du gouvernement ont été critiques, ouvertement en désapprobation, voire grande gueule. On a eu Delphine Batho, on a eu Arnaud Montebourg, on a eu Christiane Taubira. Mettre quelqu'un au gouvernement, si vous êtes ministre, mettre quelqu'un au gouvernement et si vous êtes en désaccord, un poste de ministre est une tribune extraordinaire pour exprimer vos désaccords. Donc au fond, le dilemme, il est celui-ci. Et il est quand même très nouveau dans sa forme. À la fois fédérer, rassembler dans la perspective de cette présidentielle avec cette contrainte sans précédent qui est celle de l'unité, et en même temps, cette deuxième contrainte qui est celle de donner un portefeuille éventuellement à une personnalité très à gauche, voire à gauche de la gauche, sans lui donner une tribune d'expression. La synthèse, ce serait quoi? Ce serait des ministres un peu plus à gauche, mais qui soient relativement silencieux. Oui. Et qui ne soient pas trop expansifs dans leur expression.
Oui. Voilà. Il y en a qui existent, de toute façon, bien entendu. Pour rentrer au gouvernement, il y a toujours du monde qui est disponible. Mais enfin, pour l'instant, ça peut être quoi aussi? Ça peut être de resserrer un peu sur le carré régalien, le carré des fidèles, toute la petite bande des Hollandais, Cazeneuve, Urvoas, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, le Premier ministre Manuel Valls, dans un autre genre Emmanuel Macron, enfin, toute cette ligne, toute cette même famille quelque part.
Oui, mais ça, a priori, c'est ce qu'il y aurait de plus logique. À chaque fois, il y a énormément de spéculation et à l'arrivée, comme vous le disiez, on se rend compte qu'il y a un recentrage au nom de la cohérence. C'est ce qu'on en voit. Alors, Manuel Valls, lui, appelle à la cohérence et lui, François Hollande, répète depuis l'annonce du pacte de stabilité que non, il ne changera pas de cap et qu'il ne changera pas de ligne. Donc, s'il veut être cohérent et fidèle à la trajectoire qu'il entend donner, insuffler depuis deux ans pour inverser cette fameuse courbe du chômage, effectivement, il ne devrait rien changer, ou en tout cas ne pas nommer des personnalités qui ont des sensibilités beaucoup plus à gauche à des postes régaliens.
On attend qui va remplacer Sylvia Pinel aussi. Vous vous souvenez de Sylvia Pinel, la ministre du Logement? Je sais pas si est-ce que les professionnels du logement vont la regretter, Mathieu Jolivet?
Je ne pense pas, ça, je ne saurais pas vous dire, mais bon.
La radicale de gauche. Oui, on dit que Jean-Michel Baylet pourrait arriver. Voilà, donc on va surveiller ça. En tout cas, il y a une certitude, c'est qu'apparemment, les professionnels du tourisme, eux, vont regretter Laurent Fabius, donc, qui va quitter le Quai d'Orsay pour le Conseil constitutionnel. Laurent Fabius, qui a peut-être fait beaucoup plus que tous les autres ministres du tourisme réunis, donc en faveur justement du tourisme, de la gastronomie. On va continuer dans un instant, on sera notamment avec Armen Petrosian, PDG Petrosian, et puis le président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie, monsieur Egui, qui sera avec nous, et puis toujours Mathieu Jolivet, et toujours François-Mickey Marty. Restez avec les décodeurs de l'écho, à tout de suite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.